Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Bonjour, Félix.
Bonjour.
Alors, ce suspect dont on parlait hier, ben finalement, on le connaissait dangereux.
Oui, on savait qu'il était dangereux, on savait qu'il pouvait passer, en fait, on se doutait qu'il pouvait passer à l'acte, on se doutait qu'il pouvait être violent, il a une feuille de route criminelle bien chargée, mais surtout, en fait, pas qu'uniquement, mais surtout, il a été obligé par le tribunal de suivre des traitements en psychiatrie. C'est assez important. Ces traitements devaient se dérouler et se sont déroulés à la Cité de la Santé de Laval, entre autres, dans le département de psychiatrie. Il a été admis de force parce que parfois, quand quelqu'un refuse de se soigner, on doit s'adresser au tribunal pour qu'il rende une ordonnance obligeant quelqu'un soit à aller se faire soigner à l'hôpital, soit à prendre une médication, etc., etc. Ça n'arrive pas très souvent, non, mais ça arrive. C'était son cas. Alors, le tribunal s'est penché sur une autre requête à un certain moment, c'est la requête de remise en liberté. Hein? Et dans cette requête de remise en liberté, nous dit Claudia Berthiaume du bureau d'enquête dans le Journal de Montréal ce matin, on a statué qu'il représentait, je cite, un risque important pour la sécurité du public. Je pense que ce n'est pas à négliger dans les circonstances. L'organisme qui rend, si on veut, l'autorité réglementaire dans ça, c'est la Commission d'examen des troubles mentaux. Et c'est cette commission qui statue sur les possibilités, entre autres, de récidive, et etc. Alors, tu vois, c'était pas qu'un séjour en hôpital, au département de psychiatrie, c'était plusieurs séjours à l'hôpital psychiatrique. Il était schizophrène. Et il y avait des traits de personnalité antisociale, il y avait des traits de personnalité narcissique aussi, et il n'observait pas ses traitements. Alors, tu t'imagines le cocktail extrêmement explosif qu'il présentait, ben c'est un peu ça. Si bien que je crois que peut-être qu'aujourd'hui, il est intéressant de regarder dans quelle case entre Abdullah Shaikh. Ce qu'on nous dit, en fait, ce que l'enquête policière donc tend à démontrer, d'abord, je pense que c'est important de faire de couvrir ce qui se passe dans l'enquête policière. Elle ne croit pas, l'enquête policière, que Shaikh a fait ce qu'on appelle du scoring, donc a tenté de tuer des gens pour augmenter sa propre gloire au sein d'un mouvement criminel. C'est ce qu'on appelle le scoring. Pour l'instant, on ne croit pas que Shaikh a été commandité pour commettre ces meurtres et on ne croit pas qu'il ait été influencé par une tierce partie pour les commettre non plus. On a cru que ce jeune homme-là de 26 ans aurait pu agir pour des motifs religieux. Mais attention, si Shaikh appartenait justement, si la place de Shaikh était à l'institut psychiatrique et si sa place et si sa schizophrénie était pas contrôlée, s'il était dans un délire paranoïde, un délire schizophrène.
Ben là, toutes les raisons deviennent bonnes pour passer à l'acte, là, que ce soit la religion, la frustration, name it, là, c'est pas réellement pour des motifs religieux ou des motifs XYZ.
Non, puis de toute façon, que tu crois en la religion à laquelle tu veux bien croire, si t'es dans un délire psychotique puis tu attribues tes gestes à la religion, ben bien sûr que...
Carl Girouard qui a détruit des vies à Québec, là... il ne va pas nous faire croire que c'est pour une question de religion. Là, visiblement aussi, il y avait des problèmes de santé mentale.
Il y avait des problèmes de santé mentale, justement. J'arrivais à Carl Girouard parce que cet inconnu puis ce manque de sécurité public aussi, ou le problème des gens avec leur propre sécurité, ça nous force beaucoup à vouloir des réponses rapidement, n'est-ce pas, sur les événements qui surviennent, puis sur ce qui se passe dans notre ville, sur ce qui se passe à Montréal, puis on cherche des réponses, puis on les veut rapidement, si bien qu'on a tendance à assez rapidement catégoriser des faits, ce avec quoi les policiers sont beaucoup plus prudents. Je sais pas si ça t'intéresse ces affaires-là, mais j'ai parlé à des profileurs hier. Des profileurs criminels qui ont suivi à Quantico, donc l'institut de police du FBI, de la police fédérale américaine, des cours de profilage criminel. C'est le FBI qui a développé les premières écoles, si l'on veut, de profilage. Et il y a trois types. Si on exclut, disons, l'homicide intrafamilial, il y a trois types de tueurs qui feront plusieurs victimes, et on a le tueur de masse. Bien sûr, on n'est pas devant un tueur de masse, parce que le tueur de masse va faire ses victimes à peu près toujours dans la même enceinte. Donc, on n'a qu'à penser très malheureusement à Polytechnique, à Dawson et à toutes ces tueries aux États-Unis, tueurs de masse. Le tueur en série va être excité souvent par une pulsion sexuelle ou une pulsion incendiaire. Et l'autre catégorie, et merci à cette abonné Twitter qui m'a suggéré le terme français, bien que ça soit très difficile à traduire, c'est le spree killer. The guy who went on a killing spree. Donc, qu'on entend souvent, phrase qu'on entend souvent au bulletin de nouvelles américaines, on pourrait traduire ça par une virée meurtrière.
Oui.
Ces virées meurtrières-là sont souvent l'apanage des gens qui sont en psychose, qui ne suivent pas des traitements, qui ont des graves problèmes de santé mentale. Donc, de là où on peut comparer les deux types de meurtriers, Chaïk et Carl Giroir à Québec. Voilà.
Très intéressant, et j'imagine qu'on va encore continuer à avoir beaucoup d'informations sur ce qui a pu se passer pour en arriver là. Sur une autre, ouais. Un autre ordre d'idée, la Sûreté du Québec qui mène actuellement une enquête parce qu'il y aurait eu des agressions sexuelles et des possibles cas d'intoxication au Festiplage de Cap-Espoir en Gaspésie la semaine dernière.
Ouais.
C'est nébuleux comme histoire.
Oui, ça nous vient de publications qui circulent sur les réseaux sociaux qui dénoncent des gestes qui auraient été commis au Festiplage. Et il y a plusieurs allégations, mais parmi celles-ci, il y a probablement des gens qui, en tout cas, selon les prétentions, se sont livrés à ce qu'on appelle la piqûre challenge. Ça nous est importé d'Europe beaucoup, mais en fait, c'est quoi la piqûre challenge? Moi, ça me fait capoter, cette affaire-là. Ça consiste à administrer du GHB à l'aide d'une seringue à l'insu des gens. Donc, tu vas piquer quelqu'un avec du GHB. Franchement, il y a une jeune femme qui dit « J'en ai été victime, j'ai été droguée le mercredi, la première soirée donc du festival, c'est ce que je comprends. » Et elle était la quatrième à partir en ambulance. Quatre femmes qui ont quitté en ambulance. Le CALAC de la Gaspésie a confirmé, et c'est une information qui venait du Devoir, ça avoir pris en charge plusieurs victimes, sauf que les autorités, elles, ne confirment pas. Mais moi, ça m'affole, ces trucs-là, parce que j'ai des enfants, puis parce que si on est rendu que dans des festivals, on pique les filles avec des seringues. Aïe aïe,
on connaissait le modus operandi de ceux qui mettaient de la drogue dans un verre, puis là, il y avait toutes campagnes de surveille ton verre quand t'es dans un bar ou dans un événement. Mais là, quand une seringue peut te piquer un peu n'importe où, quand tu te retrouves dans un événement, là, ça commence à être plus difficile de se protéger.
Disons. Alors c'est pour ça que je suis renversé par cette nouvelle-là. Là, on n'est plus dans cette même que la drogue. On s'entend que le GHB dans les verres, c'est pas mieux. Ça reste la drogue, puis ça reste une drogue qui est absorbée sans ton consentement. Mais moi, je trouve que de s'attaquer, parce que c'est une attaque aussi. Là, on peut considérer la piqûre comme aussi voie de fait. Là. On peut considérer ça comme ça. Je trouve que ça ajoute l'insulte à la blessure, disons.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a également cette histoire de l'adolescent blessé lors d'une poursuite policière.
Oui, ça nous rappelle des bien mauvais souvenirs. Il y a un ado de 15 ans qui a été blessé à Laval lors d'une poursuite policière. Tu te rappelles le jeune homme qui a été le bambin, en fait, qui a été tué à Longueuil là, lors d'une poursuite policière de l'UPAC. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors, c'est arrivé à minuit. C'est deux policiers, deux patrouilleurs de Laval qui tentent d'intercepter un véhicule pour une infraction au code de sécurité routière dans Chemédé. Et puis là, le gars veut pas s'arrêter. Donc, il y a une poursuite qui s'enclenche, bien qu'officiellement dans les corps de police, on dit qu'on fait jamais de poursuite. C'est pas vrai. Et là, au coin de Saint-Martin-Ouest et du Couvent, il y a un jeune homme en mobylette qui a été percuté par l'auto. 15 ans. Gravement blessé. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles sur son état de santé au cours de la journée.
Et j'imagine qu'il va y avoir des enquêtes pour savoir le contexte dans lequel les policiers ont enclenché cette poursuite. Le BEI va enquêter là-dessus. Félix Séguin, je te souhaite un excellent week-end et j'ai hâte qu'on se retrouve lundi pour d'autres actualités judiciaires.
Eh bien, moi aussi. Bon week-end à toi.